concentrer sur plusieurs étapes. Tant une définition, de comprendre qu'est-ce qu'on met sous ces termes-là. Une partie qui concerne la dimension sociale de ce sujet, de cette question. Une dimension familiale. Une dimension personnelle, subjective. Puis des questions sur les produits, on pourrait dire, qui sont bien au-delà des produits précis, parce que chacun induit une addiction, une dépendance particulière, et éventuellement quelques ouvertures, disons, sur le soin, sur ce qu'on peut faire comme accompagnement ou comme soin. Alors, addiction, ce n'est pas un terme français, hein, c'est un terme anglais, et qui est même à la mode, vous devez le voir à la télé, aux pubs, quand on dit de quelqu'un qu'il est addict, signifie que le produit est formidable. Je ne sais pas si vous avez vu quelques pubs où on se réfère à ces termes-là. Ah, on le voit bien aujourd'hui. Donc il est un peu à la mode en tant que tel pour qualifier la haute valeur du produit au niveau de la publicité. Et le mot addiction en soi, comme on l'utilise plus en psychologie ou en médecine même, il est quelque chose d'équivalent à la dépendance. Mais il contient un peu plus la notion de la fonction du produit, en quelque sorte. D'où le fait qu'il a dominé progressivement, qui remplace de plus en plus les termes de toxicomanie, de dépendance. Et donc on l'utilise dans ce sens-là. Mais voilà, il faut entendre un équivalent de dépendance, de quelque chose dont on ne veut pas se passer. Voilà au niveau de la définition du terme. Alors, comme je l'ai dit, donc, les mots addict est devenu un peu à la mode. On s'en sert beaucoup à la pub en particulier, et qui qualifie, il tente de qualifier, on s'en sert comme ça, la grande importance d'un produit, la grande qualité même. Qui me permet de passer à la première approche de la question, qui est du côté social, dans la mesure où la question des addictions, des toxicomanies, des dépendances, est une dimension sociale aussi. Ce n'est pas le problème d'un seul individu seulement. Vous êtes jeune sans doute, mais plusieurs d'autres ici qui sont un peu moins jeunes savent que ce phénomène, ce problème de toxicomanie n'existe pas avant les années 50, comme problème social, comme problème qui met à mort même plusieurs personnes, jeunes ou moins jeunes. Donc c'est bien un phénomène qui s'est développé dans des sociétés qu'on appelle développées. Comme il a été dit, donc, j'ai aussi une formation d'ethnologue, enfin, je fais ces voyages tant de le savoir qui est dans la pratique, c'est-à-dire de visiter d'autres pays. Et souvent, les ethnologues ont tendance à visiter des pays qu'on appelle primitifs, en tout cas les peuples, c'est-à-dire de peuplades, des ethnies qu'on trouve encore soit du côté de l'Amazonie, soit dans l'Afrique noire, et qui gardent de styles de vie traditionnels en petites unités. Et là, on voit diverses choses, et c'est important de voir et pouvoir comparer qui ont vécu différemment et qui pensent différemment dans d'autres traditions, et comparé par rapport à la nôtre, du coup. Et on voit que la notion de la toxicomanie n'existe pas. Les gens peuvent consommer des fois des produits, on consomme bien sûr d'innombrables produits tous, on vit par des produits, mais la dimension de la toxicomanie n'existe pas. Donc c'est bien un abord de la question qui dit qu'il y a bien notre société aussi, on ne va pas chercher de coupable, on ne va pas de ce côté-là, mais au niveau d'une réflexion, notre société qui a développé cette dimension aussi. Alors, comment l'a-t-elle développée? Ce serait long de vous faire un exposé là-dessus, mais c'est important quand même d'avoir quelques notions qui ont été abordés par des philosophes ou des sociologues, comme vous connaissez peut-être Deleuze, Guattari, qui était psychanalyste et philosophe en même temps. Il date un peu comme philosophe en France. à un sociologue américain, Christopher Lash, également, qui a écrit sur deux livres, en tout cas en particulier, un qui s'appelle « La culture narcissique de nos sociétés » et un autre « L'humain assiégé ». Pour des lectures que vous pouvez faire, hein, qui sont très intéressantes, dans la mesure où ce que je viens de citer étudie divers aspects de conséquences qu'il y a sur notre société, sur chacun de nous, de l'importance qu'ont pris les produits, les objets. Des objets qu'on est habitué et on fait avec, on n'y pense même pas. Mais quand on va justement vers d'autres sociétés et on voit le peu de choses qui leur sont nécessaires, on peut bien voir qu'il y a une différence importante. Et pour nous, bien sûr, on n'y pense pas, on fait avec les objets, 36 objets, caméras, justement, consoles diverses dès le début de la vie, la télé, et plein, plein d'autres produits, je vous en passe. Donc le produit, ce qu'ils disent donc les philosophes et les sociologues, ce produit-là, en quelque sorte, ils nous font penser un peu comme eux. Ils arrivent à nous imposer une sorte de style de pensée. Ça serait long de vous le développer. Mais celui, par exemple, que développe Christopher Lash, ce sociologue anglais, américain, bien, c'est une analyse qu'il fait très pertinente. Que là où on croit effectivement qu'avec le produit, on a tout chez soi, on devient autonome, cette notion d'autonomie et d'indépendance du coup, eh bien, cette sorte de souci permanent que tous les produits soient là, hein, la télé, le frigo, le four à micro-ondes, je vous en passe, la voiture et bien d'autres, eh bien, cette sorte de multitude de produits qui devient nécessaire, puisqu'on s'habitue et notre vie se rythme à travers cela, bien, ils installent une sorte de problématique quasiment de survie sur le plan psychologique. C'est-à-dire d'avoir le souci d'avoir quelque chose en permanence installe une sorte de problématique psychologique de survie, des survivants presque. Ce qui est bien sûr paradoxal, ça mériterait de l'approfondir plus, mais c'est vraiment paradoxal de penser qu'on serait dans une problématique de survie, tout ça, plus profondément, là où on croit que par la technologie et les outils qu'on dispose, on est dans une sorte de puissance, une sorte d'hégémonie par rapport à notre environnement. Voilà donc un point, quelque sorte de faiblesse devant notre culture, qui est une culture particulièrement marqué par le développement scientifique et technologique, et qui donne, qui tente de donner une illusion de puissance, hein, d'intervenir sur divers aspects de notre vie et de la nature. Donc, voilà la dimension, disons, par laquelle l'objet, les objets, tentent de s'imposer socialement dans notre vie sociale, familiale et personnelle. Et de prendre une grande importance sans qu'on s'en aperçoive. À la maison des adolescents où je travaille, on organise régulièrement une sorte de matinée ou de journée scientifique. Et en octobre, on en avait justement une sur cette sorte de pratique et développement de notre société, donc addictive en quelque sorte. Hein, c'était quelqu'un qui a développé ce sujet. Il n'y a pas de responsable. C'est une manière de pouvoir comprendre et de prendre du recul, en somme. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Mais, par exemple, quand beaucoup de parents, très tôt, hein, dans les familles, pour diverses raisons, installent une petite veilleuse dans la chambre des enfants. Vous avez dû peut-être tous en avoir plusieurs. Voilà. Enfin, c'est une sorte de pensée pratique que pour beaucoup de parents, ça calme les enfants, ça les rassure la nuit, s'ils se réveillent, etc. Cet exemple-là, hein, ça, on verra d'autres. Eh bien, ce qui se passe pour le bébé qui, du coup, il est calmé, en quelque sorte, par la petite lumière, parce qu'elle vient rassurer la petite lumière. Mais elle vient rassurer un peu à la place d'une fonction que le parent délègue vite, un peu facilement, parce que la petite veilleuse, on le trouve dans le commerce, délègue vite à cette petite lumière. Donc c'est une fonction rassurante qui est déléguée sur un objet. Vous voyez, quelque chose qu'on fait banalement, tous, sans trop se soucier. Bien sûr, cette petite lumière n'est pas la prémisse d'une dépendance affirmée, mais pour certains, ça peut l'être, si d'autres facteurs peuvent se combiner. D'autres parents installent vite la présence de la télé, par exemple. Bien sûr, la télé est présente dans les maisons, dans toutes les maisons aujourd'hui. Quelquefois, on a tendance de l'installer dans les chambres. Et bien sûr, la question qui se pose par la suite, c'est comment on s'en sert, quelles fonctions ces produits qui sont là pour nous amuser, quelles fonctions viennent-ils prendre dans les relations? Et les glissements sur lesquels on ne peut pas être vigilant, d'où peut-être la discussion aujourd'hui, c'est que quelquefois, les produits viennent prendre des fonctions à la place des relations. J'avais dû le voir, moi je l'ai vu, y compris concernant mes propres enfants. La nourrice, par exemple, avait tendance, quand elle travaillait, de les installer devant une cassette à l'époque, si je ne peux pas les aider, pour qu'elle puisse être tranquille et qu'il puisse voir un film. Bien sûr que cela fait partie de la vie d'enfants et de familles, mais voilà que ça peut être une tendance de parents ou de ceux qui sont d'équipe, facilement, de déléguer à la télé ou à une console plus tard, à un écran, à déléguer ses rôles, de s'occuper des enfants. Vous voyez, on n'y pense pas tellement, mais c'est très simple à glisser. Ah, on est énervé, on est embêté, on a autre chose à faire, et hop, on passe la main à son remplaçant, mais qui est un produit. Et du coup, donc, ces produits viennent très tôt dans la vie des enfants faire des fonctions relationnelles, voyez, remplacer les personnes. Et c'est un glissement qu'il faut avoir en tête, hein, dans la mesure où il peut assez vite, disons, continuer dans cette direction plus tard. Voilà donc un petit topo, hein, c'est sur le comment notre société, en somme, par son évolution positive et considérable, je ne suis absolument pas critique, mais comment elle peut laisser des failles à de mésusages, en somme, de son développement. Et je passe sur la question donc de la famille, comme je suis déjà un peu entré, autour de ces produits donc, qui viennent dans les relations familiales et très tôt faire des fonctions relationnelles. Alors, un préalable qui a valeur pour tout l'exposé. On est plutôt aujourd'hui censé ici d'aborder la question des addictions autour de l'adolescence, puisque vous êtes tous ici adolescents. Mais la question des addictions ne concerne pas que les adolescents, d'une part, concerne les adultes. Et deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est que la problématique, comme on dit nous, de l'adolescence, malgré les apparences qui ne sont pas du tout les mêmes, ressemble beaucoup à la problématique du début de la vie des bébés. Les adolescents ne sont pas de bébés. Mais ils sont en train de renaître, en quelque sorte, pas corporellement, hein, le corps changeant, ça va avec une nouvelle naissance, et bien sûr une naissance sociale, c'est-à-dire l'adolescence marque le passage de devenir adulte et de quitter la famille tôt ou tard, ça dépend de la société et des âges qui ont la coutume, disons, de marquer ce changement. Mais voilà, ça a à voir avec une notion de nouvelle naissance. Et d'une manière imperceptible et quelqu'un comme moi dirait inconsciente, beaucoup de choses qui ont été vécues à la petite enfance, un an, deux ans, trois ans, qu'on a oublié ou qu'on n'a même pas mémorisé, puisqu'elles sont les gens vécues par les corps, dans diverses expériences et divers malaises, quelquefois, alimentaires, troubles du sommeil, hautes difficultés, eh bien, tout ça est oublié pratiquement par tout le monde, par les parents, par l'adolescent, mais le corps n'a rien oublié, en quelque sorte. L'inconscient n'a rien oublié, et tout vient retravailler ce processus de la nouvelle naissance dont je parlais, à l'adolescence. Ce qui fait que, pour quelqu'un comme moi, et le travail que je fais, on dit toujours qu'un adolescent, quand on s'occupe d'une problématique ou d'un problème d'un adolescent, un adolescent n'est jamais seul. Comme un bébé n'est jamais seul. C'est-à-dire, un problème d'un bébé, on ne peut jamais le travailler avec le bébé lui-même. Un bébé qui ne dort pas, un bébé qui ne mange pas, un bébé qui a de l'eczéma ou autre chose qui vient jusqu'à quelqu'un comme moi, on ne peut pas discuter avec le bébé pour lui expliquer son problème ou qu'il lui explique. Son problème, il est corrélé aux relations dans lesquelles il vit et grandit. Et on dit, nous, les gens comme moi, que les problèmes de l'adolescent sont corrélés aux relations dans lesquelles il vit, il grandit. Parents ou d'autres personnes qui peuvent être avec lui. Voilà, donc quelque chose qui ressemble beaucoup, qui reprend même des aspects qui ont été vécus à la petite enfance, mais qu'on l'ignore, on l'a oublié. Alors, dans la famille, donc, je rejoins ce que j'ai commencé tout à l'heure, oui, on reprend cette problématique, bien sûr, des objets. Mais la famille n'est pas que sur ce registre-là, bien sûr, avec les enfants, avec nous tous. Elle est sur toute la gamme relationnelle, d'accompagnement, de découverte, de la vie, du jeu, du plaisir, des désirs et des réponses, etc., etc. Le glissement, donc, pour garder notre sujet, qui s'est fait souvent, comme je l'ai évoqué pour la petite veilleuse, le glissement, c'est de faire passer des fonctions relationnelles aux objets, sans s'en rendre compte. Et on voit des exemples du style bébé qui dort mal, il m'arrive à attendre la conversation, de voir la maman qui s'est débrouillée d'installer à côté du bébé 5 ou 10 biberons. Quand le bébé se réveille, il prend un biberon et s'en dort. Bonne solution, la maman peut dormir, elle peut travailler la main. Une bonne solution sur les coups. Sur les coups. Sur le fond, c'est une très mauvaise solution. Pourquoi ? Qu'est-ce qui comprend le bébé qui va se retrouver à l'adolescent ou à l'adulte ? Qu'est-ce qu'il comprend par ce type de réponse, lui ? Pourquoi il ne peut pas dormir déjà ? Si on garde l'idée de mauvais sommeil. Il ne peut pas dormir parce qu'il a peur, tout simplement. Il n'est pas sécurisé. Et il attend quelqu'un, dans une fonction parentale bien entendu, pour le sécuriser. Si c'est une sensation qui le sécurise, parce que le biberon c'est une sensation perceptive, par la bouche, par la main, peut-être par les yeux, si on a plus de yeux, si c'est une sensation qui le sécurise, qui l'apaise, elle ne sécurise pas en fait, elle l'apaise, qu'est-ce qu'il comprend ? Et qu'est-ce que ça fait comme effet sur lui ? Comprend, sans le penser comme je l'ai dit, mais ça fonctionne en lui de cette manière-là, que les dangers qui sont dans sa tête sont inabordables, quelque sorte. Il ne peut pas les aborder ni les affronter. Il ne veut pas non plus même le partager avec quelqu'un. Donc, il doit le fuir. Et le fuir, c'est par cette sensation qui fait une fonction de présence calmante. Vous voyez bien, hein, ça fait une fonction d'une présence calmante, qui sur le coup est efficace, si ce n'est que c'est une sensation qu'il reproduit lui-même quand il veut. Donc, qu'il n'adresse à rien à l'autre, comme demande, comme détresse, comme appel. Peu à peu, il entre dans un fonctionnement qui devient progressivement automatique, bien entendu, qui va faire que chaque fois qu'il a une détresse, eh bien, il devra trouver une sensation calmante qui va faire un chemin fermé sans pouvoir adresser quelque chose à l'autre et qui sous-entend que bien, c'est une grande méfiance d'aborder tout ça et d'adresser une demande, et d'aborder les peurs, et d'attendre quelque chose de l'autre. Donc l'autre, peu à peu, est remplacé par une sensation. Sensation qui peut être produite selon les âges différemment. L'adolescence, à l'âge adulte, on peut la produire différemment, ces perceptions calmantes. Ce qui fait que le produit, en fait, est secondaire. Ah, peu importe si c'est ce produit ou celui-là. On dit, nous, par exemple, qu'il y a divers types de produits sur lesquels on pourrait parler qui font des effets spécifiques dans ces fonctions calmantes, hein. Que ce soit le cannabis, que ce soit l'alcool, à l'adolescence en particulier, le tabac progressivement, mais ça peut être des fonctions corporelles. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un impératif de bouger. Et on voit des petits-enfants de vrai toujours qui s'endorment en se balançant dans le lit. Parce que ces sensations que produit le corps ont cette fonction-là. Ça ne veut pas dire que tous, quand on court, on cherche cet effet-là. Mais ça peut toujours dériver. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'une recherche de sensations, de perceptions calmantes, peut prendre cet effet de produire la présence de l'autre quand je veux, sans même le penser, hein, c'est automatique, puisque ça ne dépend que de mon corps. Cette fonction peut se déplacer même sur des relations, hein, cette fonction d'une fonction calmante que je dois reproduire. Donc des personnes même peuvent arriver à occuper cette place dans des relations. On peut devenir dépendant d'une relation, en quelque sorte, en général, amicale ou amoureuse. Et même, on peut glisser dans cette attente d'un effet calmant, donc, qu'on exigera de manière tyrannique, en somme, à l'autre, d'être constamment présent, parce qu'on ne peut pas se passer de lui. Ce qui ne peut pas, bien sûr, favoriser une relation amicale ou amoureuse, ouverte, épanouie, avec les personnes autonomes. Elle ne peut que la rendre tyrannique et impossible. Mais on peut le voir, et vous avez dû peut-être déjà le voir. Voilà ces fonctions donc du sentir, du perceptif, qui sont de plus en plus, donc, utilisé dans une notion d'apaisement, d'auto-apaisement et de maîtrise de quelque chose. Et dans lesquelles on s'installe, comme je le disais, d'une manière imperceptible, souvent, très tôt dans la vie, sans que personne s'en aperçoive, personne ne le fait exprès. À la place de ceux qui ont fait quand on joue dans les familles, avec les consoles, autour d'une émission de télé, etc. Et qui est de fonction donc de partage, de confiance et de réponse à divers types d'attentes et de demandes. Qui ne peut pas forcément toutes satisfaites, mais c'est dans cet espace qu'on découvre à la fois ce qui est de soi-même, ce qui est de l'autre, et dans quelles règles, en quelque sorte, on peut exprimer, partager tout ça. La notion donc de partage de la méfiance et de la confiance est importante, qui se découvre autour du jeu et autour des diverses choses que nous partageons dans l'espace familial. Avec ce danger donc de glisser et de déléguer des fonctions. Deux mots sur les produits qui viennent très tôt dans la vie aujourd'hui, donc la télé, les consoles, toute une autre série de produits, mais qui ont tendance de plus en plus à dissocier les générations. Par exemple, sur les consoles et les vitesses avec lesquelles elles se développent technologiquement, bien de plus en plus le parent ne peut plus suivre. J'avais dû le constater. Difficile de jouer avec vos parents dans les consoles. Donc la technologie, en quelque sorte, est la tendance à nous empêcher de jouer ensemble, en famille. Alors, il y a quelques parents qui s'y mettent, qui arrivent à suivre, mais ce n'est pas évident d'arriver à garder cette notion du jeu dans un espace partagé. On peut jouer ensemble, pas toujours facilement, parce que le parent a du mal à suivre toute la mouvance de nouvelles technologies. Mais au moins, on peut en parler. Et c'est justement cette sorte de parole commune qui peut continuer le partage. Le glissement, c'est de s'enfermer avec sa console. De s'enfermer seul avec sa console. Chaque fois qu'il y a quelque chose il ne peut pas être partagé ou qu'il devient difficile d'être partagé dans l'espace familial. Donc la console peut commencer à devenir un partenaire. Vous voyez un glissement. Et il prend des fonctions qui sont de plus en plus risquées. À cet isolement et dépendance. Là, donc, Alors, les consoles, parce qu'on les a très tôt dans la vie, les écrans, la télé, et bien sûr, maintenant, l'ordinateur, dans le sens que l'ordinateur permet de jouer dans les web, dans les réseaux, et de jouer avec d'autres. Et qui, du coup, si on parlait d'une vidéodépendance par rapport à des écrans, qui ont toute une série de fonctions sur lesquelles on ne va pas trop s'attarder peut-être maintenant, la fonction de la dépendance au jeu sur le net, sur les réseaux, est un peu différente encore, dans la mesure où on est constamment sur un espace plus virtuel. On est avec des partenaires de tout le monde, de toute la Terre, et on ne sait pas qui est derrière les pseudonymes. Ces espaces virtuels. Donc on parle quand ça prend cette fonction de dépendance, des cyberdépendances. L'espace cybernétique, l'espace qui est l'univers, l'espace cybernétique. Voilà, toute une série donc de conséquences, en quelque sorte, qui viennent par le produit qui est l'écran. L'écran qui s'installe très tôt sous des formes qui peuvent évoluer. Et donc avec des conséquences. Bien entendu, c'est parmi les, je crois qu'il doit y avoir 80 millions, il me semble, qui jouent à World of Warcraft, et il n'y a pas tous ces mondes-là qui deviennent dépendants. C'est des jeux qui permettent aujourd'hui de jouer différemment que moi je jouais quand j'étais adolescent, et bien d'autres. Et c'est des jeux d'aujourd'hui. La dépendance, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, l'usage dans lequel ce produit s'installe sur le plan relationnel. Les autres produits, qui sont plus chimiques, mais par exemple, même la nourriture, peut avoir une fonction des produits de dépendance, dans cette option d'addiction. Et on a ces conséquences que vous avez dû peut-être voir, soit du côté de la boulimie, soit du côté de l'anorexie. Dans les deux cas, je ne vais pas vous faire un développement, dans les deux cas, ce qui est recherché à travers l'alimentation, c'est toujours cette sensation, une sensation calmante qui vient recouvrir la difficulté et la méfiance de demander de partager quelque chose avec ses proches. Alors après, toutes les questions se posent sur cette méfiance, sur cette difficulté. Mais vous voyez bien donc que des produits d'usage courant, hein, comme l'alimentation, peuvent peu à peu devenir des produits dont on est dépendant sur autre chose que sur ce pourquoi on s'en sert au départ, hein, pour calmer la faim, pour grandir, pour alimenter le corps. Et on peut donc de ce fait utiliser d'autres produits qui seraient d'un usage banal, ça peut être même l'aspirine, ça peut être des produits d'usage courant, dans des fonctions qui dérivent pour faire des fonctions relationnelles. Les plus typiques que vous connaissez sans doute, c'est des produits comme le cannabis, comme l'alcool, qui ont des fonctions sociales. Hein, l'alcool, je ne vais pas en faire un développement, et il n'est pas là aujourd'hui dans nos sociétés, il y a une longue histoire, et il est toujours lié à, au plaisir, à la fête, à la convivialité, etc. Et on s'en sert toujours comme ça, je dirais la plupart du temps. Mais il peut à la fois être utilisé à ce niveau-là et à la fois dériver de plus en plus vers une fonction auto-calmante, hein, auto-répondant quelque chose à soi-même. Et c'est moi-même qui adresse la demande de ces produits quand je veux, et je l'ai quand je veux. Donc, je ne veux pas agir. Donc, ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être plein d'autres produits, comme le tabac, etc. Et puis, bien sûr, les drogues dures, sur lesquelles je ne m'attarde pas beaucoup, qui, elles installent des dépendances beaucoup plus profondes, puisque tous ces produits, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, les produits chimiques, hein. Même l'alimentation et même l'eau à usage addictif, bien, elle modifie en même temps de dimension biologique du corps, de dimension chimique du corps, sans qu'on s'en rende compte. L'alimentation modifie ce qu'on appelle les endorphines, une série de substances qui sont dans le cerveau. La nicotine qui est dans le tabac modifie une série de substances qui sont dans les synapses entre les cellules cérébrales. L'alcool, pareil. Et les autres drogues dures, c'est l'héroïne, morphine, etc., modifient beaucoup plus encore ces substances qui sont ce qu'on appelle neuromédiateurs, qui sont des synapses. Ce qui fait que, assez rapidement et d'une manière imperceptible, rien que pour des raisons biologiques cette fois-ci, on ne peut plus passer de ces substances-là. En quelque sorte, le corps, les fonctions du corps, les imposent. On ne peut plus passer. Elles sont devenues un élément de fonction du corps. Et par là aussi, ce n'est pas la seule raison bien sûr, mais par là aussi glisse et facilite cette tendance à attendre de ce produit des réponses qui sont à la fois biologiques et à la fois relationnelles. Et pour le cannabis par exemple, qui est couramment utilisé de manière festive, mais il peut peu à peu glisser cette notion de ne plus pouvoir s'en passer quand ça va un peu mal, de faire cette fonction d'une réponse un peu calmante et en même temps devenir nécessaire biologiquement. Et ces conséquences sont pareilles imperceptibles et ne se voient pas rapidement, se voient avec le temps, puisque comme il répond à plusieurs choses, eh bien, on n'adresse plus de demandes à des réponses qui sont passées par les autres. Et du coup, on peut aller vers une sorte d'indifférence à tous ceux qui attendraient les réponses des autres. Voilà. Mais c'est imperceptible et on ne le voit pas. Et le corps humain, peu à peu, vient l'imposer. Voilà, je ne mets pas en question la particule des cannabis et l'alcool, mais c'est de comprendre que plein de produits et plein de produits chimiques et de produits techniques qu'on peut utiliser dans des fonctions relationnelles, et à condition qu'on garde en quelque sorte son autonomie à leur égard, eh bien, peuvent, sans qu'on se rende compte, et par des voies comme ça très très subtiles, faire glisser des fonctions corporelles et psychiques qui nous font ne plus demander de choses aux autres. Peut-être que je vais m'arrêter là pour garder le temps de qu'on avait dit. Sur le plan de soins, je n'ai pas trop à vous développer. J'espère que vous n'aurez pas besoin de soins. Mais dans la maison des adolescents où je travaille et cabinet privé où je vois aussi des bébés autour de cette problématique dont je parlais, disons, le souci est constamment, non pas de parler de la personne, parce que souvent on pense comme ça, médicalement, l'ado ou l'enfant ou l'adulte, comme malade qui aurait attrapé une maladie, mais c'est de parler de cette dimension relationnelle qui ne fonctionne plus. Donc forcément, comme le petit enfant, je disais pour l'adolescent, tout le monde est concerné par ce problème. Il n'y a aucun qui est coupable, mais le fait de penser que la difficulté de partager quelque chose concerne tout le monde, et pas seulement la personne, peut permettre à mettre en place des activités et autre chose, tant groupale que familiale, pour que ce qui a été délégué au produit revienne dans les relations. En gros, ce qui est comme stratégie, disons, des personnes soignantes comme moi. Merci de votre attention et on peut discuter sur des questions qui peuvent être soulevées suite de ça ou que vous auriez déjà.